On voit, on fait comment la mystique de Abulakhia a arrivé jusqu'à Hassidis. Dans la citation pénultime de Joseph Dzikatila, c'est un petit livre qui a été publié à Venise à la début du XVIIe siècle. Et je crois que le Hassidim ont utilisé ce type de citation pour développer leur vision mystique. Et Joseph Dzikatila, qui est un kabbaliste important et aussi élève d'Abulafia, a insisté encore une fois sur ce type de mystique linguistique et il a donné une formulation qui a été imprimée déjà. Plus qu'un siècle avant le chassidisme, mais je crois qu'il a été le source de base pour la mystique chassidique. Selon Dzikatila, les lettres du tétragramme sont tout intellectuelles, ouvrent exactement le même type de pensée, lettres intellectuelles. Ce ne sont pas des lettres sensuelles. Elles dessine une existence, une chose de durable, et chaque entité dans le monde, et telle est la signification secrète de vous qui êtes attaché au tétragramme. C'est-à-dire, cette vision qui se trouve dans le Besht, être attaché ou uni avec le lettre, est, je crois, clair aussi dans le cas de Dzikatila. C'est exactement qui Abulafia a insisté dans ce livre qui a été cité ici, Haye Olam Haba, c'est la vie éternelle, est mentionné ici par Dzikatila, c'est-à-dire que ceux qui s'attachent aux lettres de Tetragrammaton existent et durent à jamais. C'est-à-dire ce type de mystique linguistique est le mystique de la immortalité, si vous voulez. Et je crois que par la médiation de le petit livre de Dzikatila qui était imprimé, la vision d'Abulafia était connue par le premier mystique chassidique. C'est une corde, si vous voulez, de le nom divin qui se trouve dans la Kabbale extatique. Nous avons des autres cordes nominales d'un autre type de Kabbale et je voulais, dans les dernières minutes, discuter une autre corde très, très intéressante et qui peut donner le sens de ce type de jeu de mots qui se trouve dans la mystique juive. Il y a un petit livre anonyme qui a été écrit peut-être à le début du XIIIe siècle, encore une fois un petit livre ashkenaz, sur les 70 noms de Métatron, où il y a un jeu de mots très intéressant. Et vous connaissez le nom Eli, en hébreu Eliyahu, qui est une personne ici. Après, il est devenu un ange. Comme ange, selon ce type de traité ashkenaz, il s'appelle Yahoel, qui sont les mêmes consonants d'un autre ordre. Dans le même traité, nous avons une discussion sur le mot Elohim, avec une vav, qui est le même consonant contre Yahweh et contre Eliyahu, mais dans un autre ordre. C'est-à-dire, nous avons dans le traité ashkenaz, nous avons une vision que Dieu est le Fils divin, par une permutation de consonants, peut devenir un ange, Yahweh, et ces anges, par une autre permutation de consonants, peut devenir le nom humain. Cette vision de permutation a devenu dans un type de Kabbalah à la fin de l'histoire de la Kabbalah en Espagne, une vision de base. Nous avons un corpus très grand qui s'appelle La Kabbale de Sefer HaMishim, c'est-à-dire un livre très très magique et mystique dans le même temps, qui est peut-être le dernier chef d'œuvre qui a été écrit par le kabbaliste espagnol, dont ce corpus très très long. Nous avons une technique de base de révélation en laquelle Eliyahu est la représentation de la divinité ici. Et ce type de manipulation linguistique se trouve aussi dans ce corpus. C'est-à-dire que nous avons deux types des écoles de la Kabbale qui ont utilisé ce type de révélation linguistique d'une continuum. Aboulafia a donné une interprétation mentalistique ou aristotélicienne, mais des autres kabbalistes espagnols qui sont opposés à la philosophie en général, aussi à la Kabbale d'Aboulafia, ont utilisé ce type de pensée linguistique pour créer un continuum linguistique qui commence avec le Dieu, Elohi, et devient un ange, Yahweh, qui devient un homme, c'est Elia. Et ce type de révélation a été utilisé par le kabbaliste anonyme pour produire peut-être le plus bizarre commentaire juif sur la Pentateuque. C'est-à-dire, nous avons dans ce corpus grand qui a été écrit en Espagne, nous avons une technique comment conjurer la divinité qui fait descendre par ce type de présence d'Élie dans le mystique qui a devenu une médium pour commettre, pour écrire les révélations divines. Et nous avons ce type d'écriture automatique qui a été produit par ce type d'imagination que nous pouvons conjurer le divin à entrer le mystique. C'est-à-dire, c'est une chose très très intéressante, comment le Dieu peut être forcé à entrer le mystique qui produit ce type de commentaires littéraires qui sont l'ultime interprétation de la Bible selon ce type de kabbaliste. C'est-à-dire que par ce type de mystique nominel, nous avons aussi un vecteur plus magique qui a produit peut-être l'un des corpus le plus bizarre dans l'histoire de la Kabbale, et utilisant le même type de vision d'une continue linguistique qui peut médier le Dieu le kabbaliste. Qu'est-ce que c'est intéressant dans les deux types de mystique juif est le fait que nous avons des techniques que j'appelle anomiennes, c'est-à-dire le type de mystique qui utilise les noms divins qui ne sont pas part de la pratique juive normale. Et dans les dernières deux conférences, je parlerai de type de technique nomienne, c'est-à-dire qui utilise la pratique halakhique, c'est-à-dire l'étude de la Torah et la prière, pour achever des expériences mystiques dans les langues. Et cette dernière conférence aborde des visions qui sont très très différentes de ce qui ont été discutées ici. Ici, nous avons une pratique qui est problématique du point de vue rabbinique. C'est-à-dire, ce type de prononciation de nom divin est quelque chose de bizarre, presque interdit dans la pensée rabbinique. Mais je voulais démontrer dans les autres deux conférences que aussi dans les milieux plus rabbiniques, utilisant le texte base de la religion juive, l'étude de la Bible et la prière, nous pouvons trouver exactement le même démarche, la démarche linguistique, où la langue et la technique est dans le même temps le place où l'expérience peut être achevée. Merci beaucoup. S'il y a des questions,
bonjour. J'ai lu certaines de vos œuvres et j'ai certaines questions qui me sont venues parce que j'étudie les chutes dans l'Empire byzantin au XIVe siècle. Et donc, je me posais des questions sur le fait que Abou Lafiane décide de venir en Grèce.
Il a été en Grèce, c'est clair, deux fois peut-être. La première fois, c'était un passage entre l'Espagne et le Galilée. Je crois que c'était quelque chose seulement formel, c'est-à-dire il a utilisé la trajectoire du nord pour arriver à Accra. Et c'est tout, je ne crois pas qu'il ait eu ici une intention spéciale. C'était dans les années 60. Et il est revenu à Grèce pour la deuxième fois à la fin de la même décennie. Je crois pour des raisons familières. Et il a été pour quelques années, nous ne savons pas exactement, pour quelques cités grecques en Patras, Thébès, une petite place qui s'appelle Kinko. Et je crois qu'il a. C'était seulement une affaire familière, c'est-à-dire que sa épouse a été d'origine grecque. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour notre discussion ici est le fait qu'après. Après une génération, nous avons dans le Athos, le mont Athos, nous avons le déclenchement de la mystique orthodoxe le plus important qui s'appelle Hésychas. C'est-à-dire une mystique où le nom divin, le nom de Jésus, a devenu une technique mystique. Et je connais la littérature sur le Hésychas et la répétition du nom divin comme une technique mystique. Je crois qu'il y a des moments très intéressants d'approche entre les deux. Le problème est que la mystique hésychastique a été importante en Grèce une génération après la mort d'Abou Lafiane. C'est-à-dire, c'est clair dans le même temps qu'il y a une préhistoire à la mystique hésychastique en général. Qu'il se trouve déjà dans les monastères à Sinaï, nous avons de quelques témoignages très très importants. C'est clair pour moi que Kalama, c'est une histoire, n'a pas, ce n'est pas une problème de la 14e siècle, je le connais aussi. Mais je crois que pour le moment, toute l'histoire de la répétition du nom divin, avec des parallèles orthodoxes et caroslaves, avec la vision soufie, avec la vision juive, doit être traité d'une façon plus, je crois, pénétrante. C'est-à-dire, Abou Rafia n'est pas le premier. Il a des origines de l'origine Ashkenaz, oui. C'est clair. Il a cité le texte Ashkenaz. C'est 100% sûr qu'il a étudié et il a cité deux traités qui ont été écrits dans la région Rhénan, dans une ou deux générations devant. C'est parce que l'histoire est plus complexe. C'est-à-dire, je ne crois pas dans un type d'explication qu'il est unique, qu'il a une ligne. C'est-à-dire, Rhénan, Abou Rafia. Je crois que pour un type curieux comme Abou Rafia, il s'est intéressé dans la mystique Rhénan, aussi dans la mystique hindoue et soufie, et peut-être Khédikas. Mais pour le moment, nous n'avons pas des évidences claires. Abou Rafia cite, en fait, il a utilisé des mots grecs. Et pour lui, la grecque n'est pas totalement inconnue. Mais pour insister sur quelque chose comme une influence physique, nous devons avoir des évidences plus claires. C'est-à-dire, je ne veux pas rejeter la possibilité, aborder en fait la possibilité, mais nous n'avons pas de témoignage plus clair. Oui, pour moi, ok, il y a une liste, c'est bien.
Dans ce que vous avez dit au sujet de l'utilisation qui est faite du nom divin,
oui.
Il y a des frontières sinueuses, et pour ne pas dire incertaines, qui se dessinent entre le magique et le mystique.
Oui.
Or, cela me trouble assez parce que si le mystique est à l'extrême dissolution du moi, le magique est suraffirmation du moi, c'est-à-dire recherche du pouvoir. Comment pouvez-vous commenter cet aspect des choses?
Je ne crois pas dans une vision simplistique de mystique et de magie. C'est-à-dire, il y a une mystique de la magie, il y a une magie de la mystique. Mais pour le faire d'une façon plus intelligente, nous pouvons parler maintenant, il y a une démarche dans la recherche de la mystique qui s'intéresse plus des aspects énergétiques de la mystique. C'est-à-dire, seulement dans la vision occidentale, nous avons ce type de séparation de la mystique et ce type de dissolution, un mentalisme spiritualiste, d'une part, et la vision magique, qui est matérielle, qui est peut-être inférieure. Je crois que si c'est vrai peut-être dans quelques cas dans la mystique occidentale, ce n'est pas le cas dans la majorité. Le type de mystique que je connais, c'est-à-dire le mystique juif, ou pour le tzaddik chassidique, nous pouvons parler d'une mystique extrême, c'est-à-dire d'une dissolution, c'est annihilation extrême, mais immédiatement après, nous parlons de la même personne qui revient ici avec des pouvoirs extraordinaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est mystique ou magique ou mystique. Et je crois que nous pouvons parler, j'ai insisté dans la première conférence sur l'idée d'une phénoménologie des processus. C'est-à-dire nous avons des moments qui sont fortement mystiques, d'une annihilation, mais il n'existe pas quelque chose comme annihilation totale. Il y a un moment de toucher ce type de nihil, mais après, le mystique peut revenir avec des pouvoirs extraordinaires. en fait, peut-être le livre le plus important qui a été écrit dans la dernière décennie, le livre qui s'appelle Mysticisme, Response, Experience and Empowerment, par un très jeune chercheur américain qui s'appelle Hollenbeck. Il a donné une vision plus forte de la mystique en général, plus puissante, que la mystique est le moment où l'expérience peut donner à la personnalité une force extraordinaire. C'est parce que nous pouvons parler sur les mystiques comme je parle aussi sur les mystiques chrétiennes occidentales, comme Thérèse d'Avila, par exemple, comme des personnes très actives, très fortes. Et je ne crois pas que nous pouvons simplement séparer entre les éléments spirituels passifs et magiques actifs. Je crois que nous pouvons parler d'une façon plus, je crois, plus sophistiquée d'un processus complexe où il y a des expériences mystiques et après des expériences magiques. En fait, nous sommes dans ce type de pensée occidentale qui a été développée, je crois, ici à Paris, par de maîtres comme Durkheim, par exemple, de parler de ce type de... Il y a la société, il y a le centre de gravitation et la magie se trouve à la périphérie. C'est quelque chose dans la nuit. Je crois que ce type de vision, c'est une vision qui peut donner peut-être quelques insights dans le cadre chrétien, occidental, mais dans la vaste majorité des phénomènes que j'ai voulu appeler mystiques, nous pouvons trouver les deux éléments dans le même temps. Une coopération, une combinaison.
Je voulais vous demander si les techniques d'Abulafia, que vous avez parlé, sont actuellement mises en pratique, vivantes, dans certains milieux juifs en Israël.
Ah, maintenant.
Maintenant. Est-ce que cette mystique d'Abulafia, ces techniques du long divin, de répétition, sont mises en pratique et enseignées par des maîtres en Israël?
Oui. La réponse est oui, c'est une situation très, très bizarre. Avant. Bon, année, j'ai essayé de convaincre un kabbaliste d'imprimer quelques livres d'Abulafia, pour lui c'était un tabou tout ça. C'est-à-dire, c'était pour lui c'était impossible de discuter. Maintenant, dans les dernières trois années, il y a une renaissance qui intéresse l'Abulafia, qui inclut aussi quelques imprimés. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, le livre d'Abulafia parle des milieux ultra-orthodoxes. C'est-à-dire, tous les livres d'Abulafia qui ont été imprimés pour le moment, nous parlons de 6 volumes pour le moment, le tout ont été imprimés par des ultra-orthodoxes que je le connais. C'est-à-dire, l'édition était immédiatement épuisée. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement quel est le tirage. Mais c'est très difficile de le trouver. Il y a des deuxièmes éditions, déjà. Presque tout, ce n'est pas une affaire séculaire, ce n'est pas quelque chose d'académique, c'est seulement une histoire ultra-orthodoxe. Et c'est pour moi une culmination d'un processus que je connais déjà des étapes à la fin de le. 70 déjà, nous pouvons parler de quelques groupes dont Mea Sharim à Jérusalem et qui s'intéressent à Abulafia et dans le manuscrit. Je ne connais pas personnellement ce type j'espère décrire l'histoire de ce type de renaissance d'Abulafia parmi les ultra-orthodoxes. Mais c'était toujours quelque chose de particulier, c'est-à-dire, c'est pas jamais dans les Yeshivot, c'était toujours quelque chose, un petit groupe qui qui n'exercent pas de la fia dans le Shiva. C'était un tabou de parler en Shiva. Je peux vous donner l'histoire sur comment vous l'avez été dans le Shiva, elle a disparu après dans le Shiva. C'est une histoire plus intéressante que je peux discuter ici. Mais qu'est-ce que c'est clair maintenant? Que nous avons des éditions 6 volumes. Par 3 volumes par quelqu'un qui est une descendante d'une chaîne chassidique qui s'appelle Kobano. Une chassidique très très mystique, extrêmement mystique, et l'une des descendants a édité les 3 volumes, les 3 de cette série, et je connais personnellement quelques personnes qui pratiquent Abou Lafia à Safed, c'est-à-dire à Safed, c'est une histoire plus ancienne, c'est déjà une génération. Un autre petit groupe dans Mea Sharim, dans une petite groupe chassidique qui s'appelle Rab Aralech, c'est-à-dire le disciple d'une maître qui s'appelle Aliero. Je ne peux donner des noms, je connais des noms. Mais, et maintenant, nous pouvons parler de notre intérêt. Je veux parler d'un groupe à Brebera qui ont imprimé trois autres volumes d'Abulafia. C'est-à-dire, oui, je connais quelques groupes ultra-orthodoxes pour qui l'Abulafia ce n'est pas un kabbaliste, c'est le kabbaliste peut-être maintenant. C'est une histoire qui doit être décrite et analysée. C'est quelque chose que je ne comprends pas pour le moment. Quels sont les motifs de base? C'est-à-dire que quelqu'un qui était la bête noire de l'histoire, de l'histoire de la Kabbale, a devenu maintenant publié et pratiqué par les ultra-orthodoxes. Je ne parle pas du New Age, je ne parle pas de sécularistes qui sont intéressés en Abulafia comme commentateur, etc. Je parle de l'Abulafia logistique avec la technique qui est maintenant publiée et lue et aussi pratiquée parmi les groupes ultra-orthodoxes.
Oui. Vous n'avez pas l'impression quand même que votre livre sur Abou Lafia n'a pas un peu contribué à cette bonne?
Je ne sais pas, ce n'est pas si important, c'est mon livre ou non, c'est, je crois, un incident historique. Si mon livre a fait quelque chose ou non, je crois qu'il doit être des raisons différentes, plus importantes que l'apparition d'un livre ou non. Je crois qu'ici, il y a quelque chose de plus profond que le fait que j'ai écrit le doctorat sur Abulafia. Peut-être qu'il y a ici aussi un rôle joué par le livre, par moi, parce que j'ai donné des manuscrits. Mais je crois qu'il y a ici des autres raisons qui sont plus profondes. Et je admets que je ne comprends pas toute la démarche. Oui.
Oui, je voulais vous demander, vous avez dit dans Messianisme et Mystique que le mot Malbro, excusez-moi en accent,
oui, Nicolas,
lorsqu'il a commencé à vivre en juif à Thessalonique, qu'il a commencé à vivre en juif à Thessalonique et qu'il a. Appris le Sefer, enfin les bases du Sefer à Meshiv.
Oui.
Et je voulais vous demander apparemment la région de Thessalonique est très sensible à l'aspect, en tout cas, mystique. Parce que, de même qu'à Constantinople, sous Mordecai Comtino, il y avait un très très grand intérêt pour les études d'astrologie persane de la part des communautés. Je voulais savoir si éventuellement on trouve des traces de l'école d'Abulafia dans cette région-là.
Je crois que nous pouvons parler de deux étapes importantes de la Kabbale dans le Byzantin. Le premier, Abulafien, il a visité, il a fait des élèves. le manuscrit d'Abulafia se trouve dans le Père byzantin, il est cité par le catholique byzantin. C'est-à-dire faire une affaire plus importante de l'histoire de la Kabbale byzantin que de l'Église. Le Sefer Meshiv sur votre histoire, c'est quelque chose de plus tardif. C'est-à-dire seulement à la fin de la 15e siècle, d'où le 16e siècle, et c'est une part de l'histoire de la Kabbale espagnole en général. Et c'est vrai que pour le moment, le centre le plus important de ce type de Kabbale magique espagnole, c'est la magie. Le centre se trouve aussi, je ne sais pas, dans la Thessalonique, mais se trouve dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans la même région où Abulafia a été influencé. Mais je crois que l'explication est une question plus banale, que le groupe de kabbalistes castiliens qui ont écrit le Sefer Meshiv vont arriver après l'expulsion de le juif d'Espagne en l'Empire ottoman. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à la seule byzantin ou ottoman. Je crois qu'il y a une histoire. Nous pouvons parler de différentes étapes, différentes trajectoires. Qu'est-ce que c'est plus important le fait que le troisième plus important phénomène mystique, le sabbatanisme, a commencé aussi dans le même région, mais je ne voulais pas cultiver le style d'une région. Et je crois que nous pouvons parler de différents types de trajectoires, avec différentes écoles, mais dans le même cas, je ne veux dénier qu'il y a aussi une histoire locale. Et j'espère écrire sur une histoire de la Kabbale byzantine, parce que Abulafia était très important pour ce type, oui. Mais pour le moment, nous devons faire des recherches plus profondes sur l'histoire de ce type de la Kabbale. C'est-à-dire, nous n'avons pas, pour le moment, même une seule étude, une petite étude, sur l'histoire de la Kabbale byzantine.
Il y a des sources pour tout.
Ah oui, il y a des sources. Il y a, vous avez ici à la Bibliothèque nationale à Paris, de quelques sources très très importantes pour l'histoire kabbalistique de la Kabbale de la Byzantine. Se trouvent deux manuscrits colossaux, c'est-à-dire, je crois, plus que 1000 pages, qui sont inédites pour le moment, écrits à Constantinople, à midi, nous ne le savons pas exactement, de 14e siècle. Seulement de lire ces deux manuscrits, chaque page, chaque folio, c'est une tablette. Il y a, pour moi, c'était quelques mois. Et nous parlons d'un seul livre qui a été écrit dans l'Empire byzantin. Nous avons aussi des autres. Et c'est un problème d'énergie, d'étudier d'une façon plus profonde ce type de littérature. Mais oui, il y a une place pour un livre, un très bon livre sur l'histoire de la Kabbale.
Vous avez parlé de l'impossible entre le sufisme et la citation du Martin de la Je me souviens avoir été avec un groupe à Haïfa, disons, où on a rencontré un groupe de soufis.
Oui, je connais, je ne sais pas, Haïfa c'est Accra. Oui, c'est à nord de Haïfa. Oui, je connais ça.
Et une des choses qui m'avait frappé, c'est que, disons, il y avait comme à une célébration à laquelle on était raconté, après la prière, le soir, et puis il y a eu, disons, tout un groupe à se rassembler et à réciter à haute voix presque la même chose, sinon une autre chose. Ma question serait, est-ce que, disons, vous avez dit que la technique était facile, simple, dans une certaine mesure, est-ce que, disons, elle est à la portée d'un certain nombre d'initiés seulement, de personnes initiées à ce type de travail, ou bien,
disons, il y a une dimension communautaire, ou bien ça peut être enseigné ou pratiqué par, disons, tout un groupe.
Vous parlez sur le soufisme ou la boulafia?
Disons, à partir de l'exemple du soufisme, oui. Je peux parler de, non seulement de la boulafia, mais disons, actuellement aussi.
Ah, c'est clair que l'école plus importante de la Kabbale a une tradition longue, avec des groupes, avec des histoires. Et nous pouvons parler de collèges kabbalistiques avec une tradition de 300 années, par exemple, à Jérusalem, où il y a quelque chose qui est plus proche d'une initiation. Mais je crois que l'histoire de l'ordre soufi sont différentes que celles de le collège kabbalistique. C'est-à-dire, il y a des traditions, oui, parallèles, du point de vue, mais la structure est différente. Je crois que toujours vous avez des écoles, et dans l'école vous avez une histoire, mais ce n'est pas la même histoire. Le soufisme a des autres, je crois, des autres types de sociologie. Merci beaucoup.
Merci.